Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Europe 1, 8h.
4 week-ends, c'est énorme. Le mois de mars, c'est là où la collection elle commence à rentrer, les beaux jours qui commencent à arriver. C'est là où on travaille plus ou moins le mieux. Là, ça nous freine.
C'est le premier des 4 week-ends de confinement dans le Pas-de-Calais. Les magasins non essentiels doivent une nouvelle fois fermer leurs portes. Vous entendrez la colère des commerçants.
Et pendant que les magasins sont fermés, de nouveaux centres de vaccination ouvrent leurs portes. Le gouvernement appelle à la mobilisation générale partout en France.
En Irak, le dialogue se poursuit. Rencontre historique ce matin entre le pape François et l'ayatollah Ali Sistani.
Et le football, c'est un tour de chauffe pour le PSG. Les Parisiens affrontent Brest ce soir en Coupe de France avant Barcelone en Ligue des Champions. Ça sera mercredi.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Après Nice, après Dunkerque, c'est désormais tout le Pas-de-Calais qui est reconfiné ce samedi. La mesure va s'appliquer tous les week-ends jusqu'à la fin du mois de mars.
L'objectif est de faire baisser le taux d'incidence qui est 2 fois supérieur à la moyenne nationale. La plupart des magasins donc vont fermer leurs portes une nouvelle fois dans le département. Maximilien Carlier a rencontré des commerçants exaspérés à Lens.
C'est le coup de grâce. Voici comment les commerçants évoquent ce troisième reconfinement. Ils ont baissé le rideau hier soir, désespérés par la durée de ces mesures de restriction.
4 week-ends, c'est énorme. Le mois de mars, c'est là où la collection elle commence à rentrer, les beaux jours qui commencent à arriver. C'est là où on travaille plus ou moins le mieux, en entrée de collection. Là, disons que ça nous freine.
Alors il va falloir s'adapter encore, ouvrir plus tôt, les lundis, pendant la pause déjeuner, mais à quoi bon, ça ne fera que limiter la casse.
Ça veut dire que le chiffre d'affaires va encore baisser, c'est dur pour nous payer les fournisseurs, les salariés, ainsi de suite, les loyers. On fait avec, c'est tout, on n'a pas le choix.
Et certains patrons, certains gérants se sentent clairement abandonnés.
On ne peut pas nous laisser tomber comme ça. J'en appelle un peu aux élus, aux préfets, de venir voir l'état des centres-villes et l'état aussi des salariés qui sont usés parce que c'est toujours moins d'heures sup, c'est toujours des contrats arrêtés, c'est du chômage partiel, il y a un ras-le-bol.
Des aides, c'est ce que demandent ces commerçants pour compenser les pertes liées à la fermeture le samedi. Le samedi, c'est parfois 30% de leur chiffre d'affaires. Lens, Maximilien Carlier, Europe 1.
Commerçants exaspérés, mais mesure indispensable pour éviter les transferts de malades. C'est ce que nous disait entre autres le préfet du Pas-de-Calais, Louis Lefranc, il y a 20 minutes sur notre antenne. Dans le Pas-de-Calais, 10 000 doses supplémentaires de vaccins vont être acheminées. Et partout en France, un coup d'accélérateur doit être donné ce week-end en matière de vaccination.
Parmi les personnes qui sont appelées à se faire vacciner, il y a les soignants. Pour l'instant, seul un tiers d'entre eux a répondu à cet appel. C'est trop peu, selon le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui a tenté de les convaincre dans une lettre envoyée hier. Mathieu Charrier.
La lettre est courte, une vingtaine de lignes, mais les mots sont très clairs. Après un premier paragraphe pour remercier les professionnels de santé mobilisés sans relâche, dit Olivier Véran, face à la plus grande pandémie de l'histoire contemporaine, le ministre de la Santé rentre dans le dur. Il leur rappelle qu'à ce jour, seulement 30% d'entre eux dans les établissements de santé sont vaccinés, 40% dans les EHPAD. Un chiffre encourageant, mais qui progresse trop peu, selon Olivier Véran, alors que les stocks de vaccins AstraZeneca sont là. Il y a ensuite cette injonction, je vous le demande pour vous-même, votre entourage, les Français, si vous n'êtes pas encore vacciné, faites-le rapidement, il en va de notre sécurité collective. Alors le ministre ne menace pas encore de rendre cette vaccination pour les soignants obligatoire, même s'il n'a pas fermé la porte à cette éventualité. Mais il y a cette réalité, le Covid est devenu la première maladie nosocomiale à l'hôpital, ça veut dire qu'il y a des gens hospitalisés pour d'autres pathologies qui ressortent avec le Covid. Olivier Véran signe sa lettre bien confraternellement, soulignant au passage que lui-même est médecin et qu'il s'est déjà fait vacciner.
Voilà, ça a le mérite d'être clair, mais cette demande du ministre est froidement accueillie. Thierry Amourou est le porte-parole du Syndicat national des infirmiers.
La méthode est assez ignoble de transformer les soignants en bouc émissaire pour masquer leur propre incompétence à gérer à la fois l'épidémie et la vaccination. Les soignants ne refusent pas de se vacciner, les soignants ne veulent pas AstraZeneca. Pourquoi ? Parce que AstraZeneca, il n'est pas assez efficace pour une population que sont les soignants. Comme les soignants sont très exposés, ils ont besoin d'un vaccin plus efficace que AstraZeneca.
Thierry Amourou, porte-parole du Syndicat national des infirmiers avec Nicolas Feldman. Le gouvernement aujourd'hui mise sur cette vaccination avant d'alléger les restrictions sanitaires et notamment d'envisager une réouverture des restaurants.
Bonjour Jean-Virgile Krantz.
Oui, bonjour.
Vous êtes le président du groupement national des chaînes hôtelières. Vous avez eu une réunion jusqu'à hier soir avec... Jean Castex, Elisabeth Borne, Alain Griset et Jean-Baptiste Lemoyne, les ministres, justement sur votre situation. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Est-ce qu'il y a des pistes positives pour vous?
Alors écoutez, déjà le fait d'avoir cette réunion qui a duré quand même plus d'une heure et demie, il faut le remarquer, est positif. J'entendais la nécessité d'avoir des accompagnements adaptés.
Alors, mais justement, sur les accompagnements, qu'est-ce que vous avez obtenu?
Sur ce qui concerne le chômage partiel en zéro reste à charge pour l'employeur, donc aujourd'hui qui est conditionné à une fermeture administrative totale ou partielle, il a ouvert la porte sur le fait qu'il était tout à fait envisageable à ce que ce dispositif puisse être maintenu jusque fin juin 2021, ce qui permettrait de faire le tuilage entre la période de fermeture et les périodes de réouverture.
C'est envisagé ou c'est acquis?
Écoutez, il s'est tourné vers sa ministre du Travail en lui disant « nous sommes tout à fait ouverts à étudier cette possibilité ». Donc je le traduis comme un accord de principe du Premier ministre.
Donc ça veut dire pour vous aussi, c'est sûr qu'il n'y aura pas de réouverture mi-avril?
Non, du tout, puisque pour ce qui est de la réouverture, il nous a dit que ce ne serait pas raisonnable de sa part de nous donner une date de réouverture. Mais pour autant, il nous a été mentionné que la clé de décision de cette date de réouverture était la vaccination. Et il nous a dit qu'entre le 15 avril et le 15 mai, la majorité des personnes vulnérables en France seraient vaccinées. Donc nous pouvons en traduire que nos établissements devraient pouvoir rouvrir d'ici le 15 mai.
Merci Monsieur Krans, à bientôt.
Merci, au revoir.
Et sachez d'ailleurs que les discussions entre les professionnels de l'hôtellerie-restauration et le gouvernement débuteront mardi prochain. 24 heures après les violences commises à Lyon, de nouveaux affrontements ont éclaté hier soir dans la commune voisine de Rieux-la-Pape. Plusieurs véhicules ont été incendiés et au moins 6 personnes ont été interpellées. Et puis la Nouvelle-Calédonie affronte ce matin le passage du cyclone Niran. Des rafales à plus de 200 km/h qui ont déjà provoqué de nombreuses coupures de courant et des chutes d'arbres. Le cyclone est en train de se rapprocher de Nouméa.
8h06, on va marquer une courte pause avant de rejoindre notre envoyé spécial en Irak. Le pape François se trouve à Najaf, dans la maison de l'ayatollah Ali Sistani. C'est un moment historique. A tout de suite.
Europe 1, votre matinale info, Pierre de Villeneuve.
Et la suite du journal de Marguerite Lefebvre. La rencontre a débuté il y a un peu plus d'une heure. Le pape François s'entretient avec l'ayatollah Ali Sistani en Irak.
Le chef de l'église catholique face au plus haut dignitaire chiite. La rencontre a lieu dans la maison d'Ali Sistani à Najaf. Jean-Sébastien Soldani, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Irak. Il s'agit, Jean-Sébastien, d'une rencontre historique totalement inédite.
Inédit, c'est ce qui est écrit sur les affiches placardées dans les rues de Najaf, avec ce sous-titre, Sistani, François, une rencontre entre un clocher et un minaret. Mais au-delà de l'anecdote, il faut bien prendre la mesure de leur entretien. Ali Sistani ne reçoit en général personne, ni les ambassadeurs, ni les journalistes, encore moins un chef d'État étranger, ce qui est le cas du pape François. Et s'il fait des entorses à cette règle, c'est en toute discrétion qu'il reçoit. D'ailleurs, seule une petite image a filtré pour le moment. Le pape qui entre dans la propriété encadrée par un imposant service d'ordre. Les deux hommes se sont vus en tête à tête pour se parler franchement, confie un membre de la délégation papale. En tout cas, hier à Bagdad, le pape a souligné la symbolique qui entoure leur discussion.
La présence très ancienne des chrétiens sur cette terre, leur participation à la vie publique témoignera qu'un sain pluralisme religieux, ethnique et culturel peut contribuer à la prospérité et à l'harmonie du pays.
L'harmonie du pays, Ali Sistani est la bonne personne pour ça. Il a beau être discret, il est considéré comme le garant de l'unité de l'Irak. Il n'y a pas de meilleur messager pour dire aux musulmans et aux chrétiens de cohabiter sereinement.
Merci Jean-Sébastien Soldani, envoyé spécial d'Europe 1 en Irak.
Et on poursuit ce sujet demain dimanche à 8h15, puisque je recevrai le père Patrick Desbois. Il est auteur des Larmes du passeur. Il est aux côtés de la communauté yazidi. Il connaît très très bien la question des chrétiens en Irak.
Toujours à l'étranger, de nouvelles manifestations ont lieu aujourd'hui en Birmanie. Malgré la répression de la junte, au moins 55 personnes ont été tuées depuis le coup d'état militaire.
8h10, on passe au sport, Marguerite, et du foot. Hein, ce soir, ce sont les 16e de finale de la Coupe de France.
Oui, il y aura 9 rencontres, dont le match très attendu entre Brest et le PSG. Les Parisiens espèrent se mettre en jambe avant d'affronter le Barça en Ligue des Champions mercredi prochain, Simon Rubin.
Dans 4 jours, le PSG recevra Barcelone. Dans 4 jours, on parlera Ligue des Champions et ambition européenne. Autant dire que le match de ce soir à Brest pour les 16e de Coupe de France appartient un peu à un autre monde. C'est toute la difficulté pour l'entraîneur Mauricio Pochettino. Faire comprendre à ses joueurs que ce match compte, même si Brest ressemble plus à une étape sur la route de Barcelone qu'à un match à gagner en tant que tel.
Surtout, donner le valeur à la Coupe de France.
Il faut donner toute sa valeur à un match comme celui-ci, faire comprendre que la coupe est importante. Brest va opposer une forte résistance et, ajoute l'entraîneur argentin, gagner contre Brest, c'est la meilleure manière de préparer Barcelone. Alors on verra si ce discours mobilise les joueurs. En tout cas, le plan de bataille est simple. Marquer vite et se mettre à l'abri pour ne pas avoir à forcer ni à se dépenser trop. Pour les Parisiens, même si la coupe est importante, ce match à Brest a bien peu d'éclat, comme pris dans l'ombre du choc à venir contre Barcelone.
Ouais, sachez qu'hier en Coupe de France, Boulogne-sur-Mer et Toulouse se sont qualifiés pour les 8e de finale.
Enfin, il était sans doute le danseur le plus célèbre de sa génération, connu bien au-delà du milieu de l'opéra. Patrick Dubon est mort hier à 61 ans.
Ancien danseur étoile de l'opéra de Paris, son décès a suscité de nombreuses réactions. Emmanuel Macron salue une grande étoile du 20e siècle. Éric Quiré de l'Opéra de Bordeaux a dansé, lui, avec Patrick Dubon.
Sous le choc, on n'imagine pas que c'est fini, quoi. C'est impossible. C'est quelqu'un de passionnant. Hein. Il a aussi apporté à la danse classique, je dirais, cette popularité. Il l'a révélé à tout le monde qu'effectivement, on pouvait sortir de rien et devenir danseur étoile. J'ai des souvenirs merveilleux de lui en train de faire Don Quichotte, mais c'était surtout extrêmement énergisant de danser à ses côtés. Et je lui dois beaucoup. C'était un vrai pote, bienveillant vis-à-vis des autres. On est toujours dans un carcan dans la danse classique, effectivement, très dur, avec du travail, etc. Patrick, il balayait tout ça d'un revers de la main et disait « amusez-vous ». C'était très drôle d'ailleurs, il disait « mais pourquoi vous travaillez en studio ? Allez sur scène, allez sur le plateau, c'est la rencontre avec le public, c'est ça notre métier, la danse, c'est ça. Dansez, amusez-vous ».
Éric Quiré, directeur de la danse de l'Opéra de Bordeaux avec Stéphane Place. Enfin, sachez que le robot Persévérance a fait ses tout premiers pas sur Mars. Il s'est posé, souvenez-vous, il y a 15 jours. Eh bien, il a roulé sur 6 mètres, ça lui a pris 33 minutes. C'est déjà ça. Les ingénieurs de la NASA maintenant vont augmenter progressivement la distance. À terme, il pourra faire 200 mètres par jour. Ben voilà, faut bien. C'est un petit pas pour lui.
Vous rendez compte quand même. Non mais c'est génial. Honnêtement, il a fait 6 mètres, d'accord. Mais enfin, si on est en 2021, on est en train de rouler sur Mars. Ouais. Enfin, c'est quand même hallucinant. Dites ça à quelqu'un qui... mettez-vous en 1971, il y a 50 ans. Vous vous rendez compte? Non, enfin, c'est quand même génial.